Religion du monde, Véronique Guémard.
Bonjour à toutes et à tous. Cette musique du compositeur ukrainien Miroslav Skorik nous emmène en Ukraine alors que la guerre est entrée dans sa troisième année après l'invasion par les troupes russes en février 2022 qui a fait déjà plusieurs dizaines de milliers de morts. Une guerre qui a véritablement commencé il y a 10 ans, en 2014, après la révolution de Maïdan, puis l'annexion de la Crimée et du Donbass par la Russie. Comment les Ukrainiens appréhendent-ils la guerre au regard de leur foi, dans un pays plutôt sécularisé, où plus de 65% tout de même se disent croyants? Qu'est-ce qui les aide à tenir et comment les différentes confessions répondent à leurs interrogations, à leur détresse, à leur souffrance? Je vous propose de partir à Kiev, Boutcha et Irpin en Ukraine pour écouter des témoignages croisés de citoyens, croyants ou non, de religieux aussi, d'aumôniers militaires, sur ce qui peut aider les êtres humains à surmonter leur souffrance. Le mur qui longe la cathédrale Saint-Michel à Kiev est rempli de milliers de photos de soldats morts depuis 2014 et surtout depuis 2022. Natalia et Andriy sont venus coller celle de leur fils.
Nous sommes de Tcherkassy et aujourd'hui notre fils a été décoré de l'ordre du courage. C'est pour ça qu'on est venu ici pour mettre sa photo sur le mur. Il est décédé en août l'an dernier.
Notre fils était soldat dans l'armée de métier en 2020. Et depuis la guerre totale, il était engagé dans les combats dans le Donbass, à Zaporijja. Puis il était du côté de Bakhmout. Et à côté de Bakhmout, c'est là qu'il a été tué.
Est-ce que le recueillement dans des églises, est-ce que c'est quelque chose qui vous aide ?
On est croyants, on s'adresse à Dieu pour qu'il nous aide à survivre avec tout ce qu'on a vécu. Donc on a mis la photo de notre fils ici, sur ce mur, pour que Dieu le protège.
Et vous allez à l'église Saint-Michel maintenant?
On va mettre les bougies pour les morts et pour ceux qui sont vivants. Mais rien ne nous aide en fait, on pense à notre fils tout le temps. Il est tout le temps dans nos pensées. Chaque jour, mon mari et ma fille y pensent. On a l'impression qu'on ne pourra pas survivre à cette douleur. On reste en contact avec ses camarades de la 3e brigade. On est très inquiets pour eux, on fait des donations régulièrement pour que ça se termine au plus vite, pour qu'ils ne manquent de rien.
Nous descendons sur la place de Maïdan. Un haut-parleur crache de la musique devant un stand de café et de thé. C'est ici que s'est déroulé en février 2014 ce qu'on a appelé la révolution de la dignité. Des manifestations immenses contre l'ancien président Viktor Yanukovych, qui avait préféré se rapprocher de la Russie et avait refusé de signer l'accord d'association avec l'Union européenne, en réprimant violemment les manifestants avant de s'enfuir pour Moscou. Andriy et Vadislava sont frères et sœurs. Ils ont acheté un petit drapeau aux couleurs de l'Ukraine pour le planter sur le grand parterre de gazon, déjà bien rempli de drapeaux et bougies, parfois de photos qui représentent désormais ceux qui sont morts à la guerre, avec leur nom inscrit ainsi que leur date de naissance et de mort. Vadislava a pris un gros feutre pour marquer sur son drapeau le nom d'un cousin disparu.
Notre père en ce moment est à la guerre sur le front. Notre cousin est porté disparu et nous avons beaucoup d'amis dont les noms figurent parmi les morts. Donc on vient ici pour leur rendre hommage et rappeler leur mémoire, pour soutenir les gens qui sont à l'armée, pour se souvenir de tous les morts qui sont représentés ici par ces petits drapeaux. Pour ne pas oublier aussi ce qui vient de se passer à Avdiivka, dans le Donbass. On voit comment les gens meurent là-bas, sous l'occupation, sous les bombardements. C'est très fort émotionnellement tout ce qui se passe. Donc on vient pour se souvenir de ceux qui sont à la guerre. Et nous, comme volontaires, on s'investit pour travailler à notre victoire, pour ne pas oublier, pour que le monde n'oublie pas.
Vous êtes volontaire dans quoi, c'est-à-dire ?
On fait des levées de fonds, d'argent, pour acheter des équipements nécessaires aux militaires, des gilets pare-balles, pour répondre à tous leurs besoins. Et puis on aide aussi à nourrir les animaux dans le Donbass.
Et vous-même, vous risquez pas d'être appelé, justement, pour aller
sur le front.
J'ai 24 ans et d'après la loi, on doit être appelé à partir de 27 ans. Mais avec la nouvelle loi en cours, ce sera à partir de 25 ans. Donc si cette nouvelle loi entre en vigueur en mars, si je suis appelé pour aller à l'armée, j'irai. Je ne vais pas me cacher. Tout ce qu'on voit ici, ce parterre de drapeaux plantés, ce sont tous ces gens qui sont morts à la guerre, qui se sont battus pour la victoire. Donc on défend notre indépendance. J'irai dans l'armée, oui. Je ne vais pas me cacher.
Et est-ce que vous êtes croyant ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide à tenir la foi ou pas du tout ? Et c'est plutôt dans l'investissement comme volontaire que vous trouvez cette force ?
On ne peut pas dire qu'on soit croyant ou non croyant. C'est plutôt une tradition familiale selon laquelle on pense que Dieu existe. On va à l'église pour les grandes fêtes, pour Pâques par exemple. Ce qui nous aide à tenir, c'est plutôt le volontariat, notre investissement en tant que bénévole avec ma petite sœur. En dernier recours, je demande à la Vierge Marie de nous aider. Mais on fait surtout des actions pour aider nos proches, pour les gens qu'on connaît. C'est ça qui nous porte.
Близьким і знайомим, самим близьким.
Direction l'Université de Kiev, où la plupart des cours se font en ligne. Olia Polyukovitch, vice-présidente pour la recherche et l'enseignement de l'Université nationale de Kiev-Mohyla, nous accueille dans un hall du premier étage.
Ici, c'est le mur de photos qu'on a fait pour honorer la mémoire des étudiants, des diplômés et de nos collègues enseignants qui ont été tués par les Russes sur les lignes de front depuis février 2022. Ici, je reconnais au moins trois personnes. Là, c'était mon étudiant. Là, c'est un philosophe. On est entrés à l'université la même année. On se voyait régulièrement ici. On avait des amis communs. C'est terrible. Il avait une fille très jeune. Sa femme aussi est diplômée de Kiev-Mohyla. Donc vous voyez, ce mur pourra être prolongé de nouvelles photos, certainement.
Juste avant d'arriver à l'université, une sirène a retenti, une alerte de tir de missiles lancée par la Russie, comme pratiquement tous les jours. Une source de stress supplémentaire, nous dit Olia Polyukovitch.
Tout a changé profondément à l'université. On essaye de faire front et de nous adapter à cette nouvelle réalité. Par exemple, vendredi dernier, j'avais une classe et pendant la pause, il y a eu une alerte de tir de missile. On n'a pas le droit de faire cours pendant les alertes, donc on a dû interrompre la classe. Ça demande beaucoup d'énergie pour rattraper le cours, revenir sur ce qu'on avait commencé. Pour les étudiants, ça demande davantage d'énergie et puis cette guerre affecte toutes les familles. Souvent, des membres de leur famille sont dans l'armée ukrainienne. Certains étudiants se sont engagés eux-mêmes pour combattre. Donc les étudiants ici comprennent très bien ce qui se passe et ils sont impliqués non seulement dans leurs études, mais aussi dans ce processus historique et politique qui se déroule et qui prend de l'énergie, du temps, et ils doivent affronter la peur et tout ce qui est lié à cette situation.
Alexandra, 18 ans, étudiante en philologie germanique, gère son stress en se plongeant dans les études.
Le fait d'être occupé tout le temps, ça aide parce que ça ne nous laisse pas le temps de penser à ce qui peut nous arriver ou à nos proches. Le problème, c'est quand on s'investit, par exemple ici à l'université ou dans des projets, et qu'il y a les alertes de missiles. On doit annuler des cours ou des séminaires, mais bon, on arrive à gérer, il suffit de s'organiser. Moi, je ne suis pas vraiment croyante, la religion, ce n'est pas ce qui me porte. L'important, c'est surtout le fait d'être entouré de mes proches, de ma famille, de mes amis. Moi, mon père est dans l'armée en ce moment, donc c'est assez stressant.
Nous nous rendons chez Sergueï, qui a perdu son fils Alexandre dans la bataille de Mariupol. Il faisait partie du bataillon d'Azov. Devant son immeuble, une immense fresque murale représentant le visage de son fils a été peinte par des membres du club de foot Dynamo de Kiev, dont il était proche. Sergueï nous fait asseoir dans la chambre de son fils, transformée en musée, avec des tableaux représentant des montagnes que son fils adorait, des photos et des objets.
Ah, И он воевал под Киевом сначала, пошел 24-го добровольцем, Буча, Ирпень.
Mon fils a commencé à combattre autour de Kiev, Bucha, Irpine, Ostomel. Parfois, on faisait des appels vidéo, il nous disait tout va bien, les Russes ont reculé, la guerre va bientôt finir. Nous, on était partis à Chypre à l'époque. Le dernier appel, c'était le 28 mars. On ne savait pas que le lendemain, il partait pour une opération spéciale, pour se rendre à Mariupol en hélicoptère et apporter des munitions et du matériel à ses camarades du bataillon Azov. Pour lui, Azov, c'était aussi sa famille. Il leur a apporté le système Starlink, des munitions, et il est resté avec eux. Quand il est arrivé, ses camarades étaient tous sous le choc. Ils lui ont dit « Pourquoi tu as pris ce vol? Il ne fallait pas. Tu aurais pu vivre, mais ici, tu vas mourir. » Il a répondu « Je suis venu pour être avec vous. » Et il est resté.
Les parents d'Alexandre n'ont pu récupérer le corps que 8 mois après son décès, après un échange de prisonniers avec les Russes. Puis il a fallu faire un test ADN, l'incinérer, puis lui rendre hommage lors d'un enterrement.
Ce qui m'aide à tenir, ce sont les amis. Je ne peux pas dire que je sois très croyant. Je ne suis pas un fanatique de la religion. Je suis persuadé que Dieu existe, mais je ne vais pas me mettre à genoux pour prier. Ce sont plutôt nos proches et les amis d'Alexandre qui m'aident à tenir. Cette équipe qui était avec nous pour monter dans les Carpates est venue à la maison. On se retrouve pour différents événements, soutien aux familles, aux prisonniers. On se croise très souvent lors de ces événements et ce sont ces gens-là qui nous apportent de la force. Mais je vais tout de même à l'église quand j'en ressens le besoin au fond de moi. Par exemple, ce matin, j'étais à Saint-Michel. Je me suis assis dans l'église, j'ai fait une petite prière, j'ai allumé une bougie. C'est le moment où je me recentre sur mes pensées. Je ressens des émotions positives après ces visites à l'église.
Comment les prêtres reçoivent leurs fidèles ou les citoyens, pas forcément croyants d'ailleurs, qui viennent se confier à eux? Nous avons rencontré à Kiev l'archimandrite orthodoxe Séraphim, prêtre de l'Église orthodoxe d'Ukraine.
Avant la guerre, les gens venaient nous voir plutôt pour des problèmes familiaux. Maintenant, ils viennent nous voir avec les peines de l'âme créées par la douleur de la perte de leurs proches, les angoisses provoquées par la guerre, avec toutes ces souffrances, la peur et la perte de leurs proches. Les prêtres qui exercent dans les grandes villes sont confrontés en permanence au chagrin des fidèles qui sont en souffrance à cause des morts de la guerre.
Vous êtes sollicité comme soutien spirituel et psychologique ?
Oui, dans une certaine mesure. Mais personne n'était préparé pour cette guerre. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait dû reconsidérer pour mieux répondre aux questions des fidèles sur la guerre. Des questions liées à la compréhension. Pourquoi Dieu permet tout ça? Est-ce que Dieu continue à agir pendant la guerre? Que pouvons-nous espérer?
Donc il y a des personnes qui se sont posées la question, mais où est Dieu finalement, à cause de toute cette souffrance?
Oui, effectivement, cette question, je l'ai entendue assez souvent.
Direction Boutcha, une ville entourée de forêts de pins, située à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Kiev, qui porte les traces et les blessures profondes de la guerre. Les forces russes sont accusées d'avoir commis des massacres, des viols et des crimes de guerre au cours des 33 jours d'occupation de la région entre le 27 février et le 31 mars 2022. Des images de corps de civils abattus dans les rues et des charniers qui ont été découverts ont fait le tour du monde. Des enquêtes pour crimes de guerre sont en cours.
Nous sommes dans le cimetière de Boutcha. On fabrique des tombes, des mémoriaux de la guerre d'occupation. Là, nous sommes dans une partie où ont été enterrées les personnes qui ont été tuées pendant l'occupation de Boutcha par les Russes. Il y a beaucoup de tombes sans identification, des habitants de Boutcha qui ont été tués, des gens pacifiques. Au début, c'était dur, mais comme pour tout type de travail, on finit par s'habituer. Maintenant, ça va.
Et des familles viennent donc ici pour récupérer les corps?
Oui, il y a des familles qui retrouvent leurs proches, ils font exhumer les corps, ils font les tests ADN et ils refont un enterrement.
Donc une fois que les corps ont été identifiés, les familles demandent de refaire des tombes, c'est là que vous intervenez ?
Là, cette femme a été tuée par les Russes. C'est la fille de la personne qui nous a commandé la tombe. Sa fille n'avait pas réussi à s'enfuir, elle a été tuée, il y a sa photo ici.
Donc là, cette femme a été identifiée et vous faites la tombe à la demande de son père.
Oui, elle avait 37 ans. C'est sa famille qui l'a enterrée ici pendant l'occupation. Mais la tombe n'a été commandée que maintenant, 2 ans après, par sa famille.
Désormais, les centaines de noms de ceux qui sont morts lors des attaques par l'armée russe sont inscrits sur des plaques commémoratives, notamment derrière l'église de Boutcha, où une fosse commune avait été improvisée. Natalia a vécu l'occupation, elle s'était réfugiée avec ses 3 enfants dans une petite cave, d'où elle n'est pas sortie pendant plusieurs jours.
Oui, j'étais avec mes 3 enfants. Ils étaient assis dans la cave, puis dans le garage, au sous-sol, dans un espace de 2 mètres sur 2. On était 6 avec ma mère handicapée sans jambes et un bébé d'un an qui avait encore des couches. Quand je suis sortie, j'ai vu que toutes les portes étaient cassées, les vitres brisées, il y avait plein de téléphones écrasés sur la route. 2 voisins et mon parrain ont été emmenés par les Russes. Ils ont été retrouvés dans une fosse commune.
Plusieurs personnes qu'elle connaissait sont enterrées ici, derrière l'église, dont une ancienne camarade de classe. Ici, tout le monde se connaît, dit-elle. Elle priait beaucoup pendant cette période où toute la famille a eu très peur et a pu être évacuée à temps.
Dieu m'a aidée, bien sûr. Moi, je suis très croyante. Je faisais tout le temps des prières quand nous étions au sous-sol. Je remerciais Dieu de nous réveiller en vie. Nous étions au sous-sol. On avait la voiture avec un réservoir plein d'essence juste au-dessus de nous. Si on avait été bombardés, on aurait été brûlés vifs. Mais Dieu nous a aidés. Mon fils, qui avait 6 ans, a commencé à bégayer à cause de tout ça. Maintenant, il a 8 ans déjà.
Natalia, son mari et ses enfants sont partis à l'étranger, en République tchèque, et ne comptent pas revenir vivre en Ukraine. Natalia ne veut pas que son mari soit obligé d'aller combattre. À côté de Boutcha et Irpin, nous rejoignons Olia, administratrice de la cuisine des bénévoles au World Food Kitchen, où des repas chauds sont fournis aux déplacés qui ont tout perdu. Olia vit à Kiev et vient tous les jours à Irpin pour la distribution des repas.
Nous fournissons ici des repas pour les gens qui ont perdu leur maison à cause de l'agression de la Russie contre nous. Ici, ce sont des personnes déplacées de différentes régions d'Ukraine, du sud et de l'est, et aussi des locaux qui vivaient à Boutcha et à Irpin. Au début de la guerre, nous fournissions des repas à plus de 4000 personnes par jour. Les gens se sont adaptés, certains ont retrouvé des parents ou sont partis à l'étranger, où ils récupèrent leur logement. Quand c'est possible, l'État répare les maisons et les gens peuvent rentrer chez eux. Maintenant, on a entre 1500 à 2000 personnes par jour ici, mais certains partent et d'autres continuent à arriver.
Et pourquoi c'était important pour vous de faire ce travail ?
Je viens tous les jours parce qu'il y a la guerre dans notre pays et qu'il est impossible de se tenir à l'écart. Ça me donne envie de pleurer. Nous vivons avec ce chagrin. Je n'ai pas quitté le pays et je ne quitterai pas ma famille. J'ai des frères qui se battent pour protéger l'Ukraine, des amis qui ont perdu leur maison. C'est impossible de rester sans rien faire.
Vous êtes de confession orthodoxe, Olia, la foi vous aide à surmonter cette période de souffrance ?
Avant la guerre, j'allais beaucoup à l'église. Et avec la guerre, je dirais honnêtement que même si ma foi s'est renforcée, j'ai commencé à aller moins souvent à l'église. J'ai compris que Dieu est partout. Ici et maintenant, où que je sois, je sens sa présence en moi, ce soutien, l'amour pour tous. Mais aussi, je me suis adoucie avec le respect de la foi, l'amour et surtout l'entraide qui est devenue plus forte que tout.
Thank you. Nous rejoignons des modules préfabriqués construits par la Pologne pour héberger les habitants qui ont tout perdu et les déplacés de la guerre, comme Valentina, qui partage une petite pièce composée de deux lits superposés avec une autre famille.
Je suis Valentina, j'habitais à Irpin. Mais avec les bombardements, notre appartement a été incendié. On a eu la vie sauve, mais on est venu vivre ici, dans un espace préfabriqué. Ça fait 2 ans. Mon immeuble est en réparation. Je suis croyante, je suis orthodoxe. Je vais à l'église et je vais vous dire une chose, Dieu m'a aidée en tout. C'est la Bible qui m'aide énormément. Je ne sais pas comment j'aurais pu tenir sans la Bible. Je suis allée il n'y a pas longtemps chez ma sœur, au premier étage de mon immeuble. Et je suis montée aussi au 5e étage pour voir ce qui restait de mon appartement. C'était très dur, car tout l'étage a été brûlé par la roquette qui a explosé. On est tellement fatigués. Moi, j'ai 65 ans. On a tout perdu. Heureusement, ici, le personnel de la cantine est vraiment bien. Ça fait 2 ans qu'on est ici. Ils nous donnent à manger tous les jours. Ils sont formidables.
Irpin porte les stigmates de la violence des attaques russes et des combats. Nous rejoignons Tetiana Kalinichenko, sociologue des religions, et son mari Feder, ancien militaire blessé en 2015 et désormais bénévole pour l'armée.
On est dans un petit café familial à Irpin, Tikava. Nous l'avons ouvert en janvier 2022, un mois avant l'invasion totale. Et ici, c'est un des quartiers d'Irpin qui a été brutalement attaqué. Il y a eu des combats dans les rues, juste à côté.
Vous avez dû fuir et vous avez été pris directement dans ce conflit.
Je ne parlerai pas de conflit, mais de guerre. C'est une guerre. Nous sommes restés sous occupation pendant 2 semaines et nous avons eu la chance de pouvoir nous échapper par nos propres moyens, car nous n'avions pas la possibilité d'être évacués. Donc nous sommes chanceux d'être en vie. Beaucoup de nos voisins n'ont pas eu cette chance et sont morts. On a subi 2 vagues de la guerre dans notre vie, d'abord en 2014-2015, alors que mon mari était militaire sur le front en Crimée et dans le Donbass. Ensuite, notre engagement au cours de toutes ces années, car la guerre, pour nous, a réellement commencé avec l'occupation de la Crimée. Et pour moi, ça a même commencé avec la révolution de Maïdan, bien sûr. Et depuis 2 ans, c'est la phase de l'invasion à grande échelle. Et c'est très différent. Jusqu'au bout, on ne croyait pas que cette guerre totale avait commencé.
Et la foi était importante pour vous, Tetiana ?
Oui, pour moi, ça a été très important. Mon mari a peut-être un avis différent. Moi, si je ne croyais pas, si je ne trouvais pas un sens à tout ça, je ne pourrais pas survivre à certains moments. Car c'est difficile de croire que des meilleurs temps vont arriver. À chaque fois qu'on retrouve du calme, il y a de nouveau une crise, un désastre, et on doit à nouveau tenter de se ressourcer. Et pour moi, la foi, c'est une ressource essentielle.
Le mari de Tetiana, Feder, a servi pendant de longues années dans l'armée. Il était en Crimée au premier jour de l'annexion par la Russie. Il a combattu sur place et dans le Donbass où il a été blessé en 2015. Démobilisé pour des raisons de santé, il continue comme bénévole à fournir tout ce dont ses anciens compagnons d'armes ont besoin. Lorsqu'il était au front, il se souvient des aumôniers militaires qui venaient les rejoindre à l'époque jusqu'en première ligne.
À l'époque, c'était un peu chaotique. C'était des prêtres volontaires qu'on appelait des aumôniers et qui apportaient leur présence sur place. Il n'y avait pas de loi qui régissait leur présence. Maintenant, ces aumôniers sont présents officiellement dans l'armée. Ils reçoivent même un salaire. Mais à l'époque, c'était très improvisé. Ils étaient bénévoles.
Et donc, c'était important pour vous, cette présence, même s'ils étaient volontaires au début?
C'était important pour moi car c'est grâce aux aumôniers qu'on s'est connus, ma femme et moi. Moi-même, je suis croyant, ou peut-être agnostique, mais les aumôniers sur le front, ça aide à élever l'esprit. C'est la personne avec laquelle on peut parler sans utiliser trop de gros mots. Et c'est une sorte de psychologue à qui on peut confier son âme en sachant qu'il ne va pas le répéter à tout le monde, car il y a le secret de la confession.
They were bringing food, supplies.
Les aumôniers bénévoles apportaient des munitions, de la nourriture, des vêtements pour les soldats. Et moi, je les ai accompagnés en tant que journaliste à l'époque pour voir de l'intérieur comment ça se passait. C'est comme ça qu'on s'est connus avec mon mari. On ne voyageait pas seulement avec un prêtre orthodoxe. Il y avait aussi des pasteurs protestants, des imams, des prêtres gréco-catholiques et des prêtres orthodoxes. C'était une équipe importante, donc on les a accompagnés d'un point à un autre. C'était des distances qui pouvaient atteindre 500 km par jour. C'est là qu'on s'est connus, en avril 2014.
10 ans après, Feder, vous qui faites de la formation, est-ce que les soldats vous parlent de cette présence des aumôniers? Est-ce que c'est important avec cette guerre totale actuellement?
Effectivement, la présence des aumôniers s'est beaucoup développée. Pratiquement chaque unité a son aumônier militaire. Il joue un rôle très important en apportant un soutien moral et psychologique. Les soldats peuvent parler, expliquer des choses sur ce qu'ils ressentent. C'est important que toutes les confessions soient représentées pour que chacun puisse s'exprimer selon ses besoins. Leur présence est nécessaire.
Il y a un changement majeur. Avant, et quand les aumôniers étaient bénévoles, ils pouvaient aller et venir comme ils le voulaient. Maintenant qu'ils sont dans l'armée, ils doivent servir dans l'armée, faire des rapports avec la bureaucratie. Et puis beaucoup de prêtres, notamment des orthodoxes, ont aussi leur paroisse. Et ils ne sont pas toujours prêts à la laisser tomber pour servir dans l'armée, car ils ne peuvent pas faire les deux. Et ils ne sont pas prêts à ne servir que l'armée en laissant leur paroisse. Et puis ils ont souvent une famille. Ce qui était populaire dans les années 2014-2015 est moins attractif aujourd'hui, car les prêtres doivent s'engager et combattre aussi parfois. Donc, est-ce que vous pouvez le faire ou pas? Ce qu'on entend souvent de la part des soldats, c'est qu'ils ont besoin que les aumôniers soient au plus près d'eux à tout moment, même quand ils passent à l'attaque. Donc, ce sont ces dilemmes auxquels les aumôniers sont confrontés.
Écoutez Religion du Monde, nous sommes en Ukraine pour écouter des témoignages croisés sur cette guerre. Les religieux de toutes les confessions sont engagés dans la guerre. Eux aussi en payent le prix fort. Plusieurs d'entre eux ont été enlevés, torturés, tués. Andriy Zelensky est jésuite, il est aumônier militaire. Il a servi de longues années sur le front. Il s'occupe désormais de la formation et retourne régulièrement sur le terrain. Un terrain de guerre, de souffrance, où il tente de ramener un peu d'humanité.
I usually say that a mission of military chaplain is a very modest, very humble mission.
J'ai l'habitude de dire que la mission d'un aumônier militaire est très modeste, très humble. On ne peut pas faire grand-chose, on ne peut pas commander les troupes au milieu de ce chaos, on ne peut pas changer la réalité aussi menaçante soit-elle. Tout ce qu'on peut faire, c'est réparer l'humanité brisée. Réparer l'humanité, c'est pour moi la chose la plus importante. En tant que prêtre et aumônier militaire, j'ai des sortes d'outils que je peux utiliser. Ça peut être une prière, ça peut être une discussion avec les militaires, passer du temps avec eux, c'est important. Mais surtout ces quatre axes, chercher la vérité, choisir le bien, défendre la justice, et puis arriver à contempler la beauté du monde, même sur le champ de bataille.
Andriy Zelensky, certains soldats regrettent que les aumôniers militaires n'aillent plus sur la ligne de front. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années ?
8 ans avant l'invasion totale par les Russes, je pouvais circuler d'une position à l'autre sur les lignes de front. C'était possible même lorsqu'il y avait des combats, car il y avait toujours des accalmies et on pouvait parler avec les soldats. Mais maintenant, sur la ligne de front, ça tire tout le temps. Il n'y a ni l'endroit ni le temps pour parler. Les soldats n'ont pas un moment pour se concentrer sur autre chose. Et puis les choses ont changé pour les aumôniers. S'ils sont volontaires, ils peuvent encore bouger sur différentes positions. Mais les officiers aumôniers militaires qui sont dans l'armée désormais ne sont plus autorisés à aller sur le front parce qu'ils ne peuvent pas faire leur travail d'écoute. Donc ils sont sur les lignes en arrière du front, là où ils peuvent travailler.
« Nous rentrons à Kiev, dans la synagogue au centre-ville, pour rencontrer le rabbin David. Pendant plus de 20 ans, il a enseigné la Torah. Il n'aurait jamais imaginé être aumônier militaire dans une guerre provoquée par l'invasion russe qui s'installe dans la durée. Il est actuellement le seul aumônier militaire juif intégré dans l'armée.
Il y a un proverbe qui dit qu'il n'y a pas d'athée dans les tranchées, que face à la mort, on est tous croyants. Personne ne veut mourir. Quand on se retrouve face à la mort, on se raccroche à certaines valeurs, à nos croyances. Il s'avère que je ne communique pas seulement avec les soldats qui sont juifs, mais avec tous les soldats, car malheureusement, il est impossible de garantir que chaque unité est un aumônier, catholique, un orthodoxe, un musulman, un juif, etc. Donc, quand un aumônier va dans une unité, il est aumônier pour tous et tout le monde veut nous parler, parce qu'une personne, sur un terrain de guerre, se retrouve dans un état complètement différent de ce qu'il a d'habitude.
Il demande à vous parler. Pour vous dire quoi, par exemple ?
Le principal problème, ce sont les relations familiales qui sont très, très durement touchées. Lorsque l'homme est à la guerre et la femme est quelque part à l'étranger ou à l'arrière du front, tout le monde ne peut pas résister à distance. C'est pourquoi les familles s'effondrent et c'est un très gros problème.
Et par rapport à la peur de la mort, c'est quelque chose qui revient régulièrement ?
C'est effectivement une question qu'on me pose souvent, mais ça dépend de l'âge du soldat. L'armée est très hétérogène. Les jeunes ont du mal à croire qu'ils peuvent mourir. Les plus âgés sont très inquiets. Ils se posent plein de questions sur la mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort, etc.
Et qu'est-ce qui vous frappe au bout de 2 ans de guerre ?
Quand la guerre a commencé en 2014, c'était perçu comme une guerre locale qui ne concernait que les habitants de l'Est, du côté de Donetsk, Lugansk. À l'époque, nous étions engagés dans l'aide aux personnes déplacées en soutien moral, parfois matériel, pour les évacuations, les réinstallations, pour les faire partir à l'étranger, ce genre de choses. Maintenant, depuis 2022, ça a changé. Aujourd'hui, il y a un élément important, c'est la fatigue. Tout le monde est fatigué de la guerre, surtout les militaires. Par exemple, ils ne savent pas quand ils seront relevés. Surtout ceux qui sont en première ligne, parfois à cause du manque de personnes formées.
Qu'est-ce que vous arrivez à dire aux soldats aujourd'hui, qui sont effectivement fatigués ? Vous êtes non seulement l'accompagnateur spirituel, mais psychologique.
Oui, on doit être des psychologues, on doit être le papa et la maman en même temps. Pour les soldats qui sont sur le front, on apprend tout ça sur le terrain en même temps.
Nous partons à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Kiev. Nous arrivons dans un petit village, dans une grande maison, chez Sergueï, prêtre orthodoxe, aumônier militaire dans les hôpitaux. Père de 3 enfants avec sa femme, ils ont adopté une quinzaine d'enfants depuis 2011. Il y a 2 ans, en février 2022, ils ont subi l'occupation russe et les attaques de plein fouet.
Vous êtes dans la région de Tchernigov. Ici, nous avons subi l'agression russe. Dès le 3e jour de l'invasion, l'armée russe était déjà ici. Et nous avons subi l'occupation pendant 1 mois, avec des combats. Jusqu'à 80 personnes sont venues ici pour se réfugier dans la maison, car c'est une maison solide, avec une bonne cave, et nous avions des provisions. C'était l'hiver, il faisait froid, nous avions des réserves d'essence, du gaz et un générateur. Nous pompions de l'eau. Donc pendant 1 mois, les gens se sont réfugiés ici.
Et pendant l'occupation, en tant que prêtre, qu'est-ce que vous pouviez dire aux personnes qui s'étaient réfugiées chez vous ?
Le travail du prêtre était toujours le même. Le but, c'était de soutenir les gens dans la période de souffrance, leur redonner confiance et de parler de Dieu. Cette fois, la souffrance est bien plus importante. On était deux prêtres ici. Un autre prêtre était réfugié avec sa famille. On priait ici, on faisait des bénédictions, des prières renforcées dans ces moments de forte tension. À nous deux, nous faisions les services de la messe pour apporter de la force aux gens. Mais c'était le même rôle qu'on a toujours en tant que prêtre.
Natalia, vous êtes la femme de Sergueï. Comment vous avez géré cette période extrêmement violente ?
C'était terrible parce qu'au début, nous ne pouvions pas croire qu'une telle chose pouvait arriver. Quand il a été trop tard pour fuir, nous avons réalisé que nous devions essayer de survivre d'une manière ou d'une autre. Sous l'occupation, à plusieurs reprises, les Russes sont venus chez nous pour proposer d'évacuer les enfants. Ils savaient qu'on avait des enfants à la maison. Ils proposaient de les envoyer en Russie. On refusait à chaque fois. Donc on avait envisagé de cacher les enfants. On avait même élaboré des plans pour dire à chacun des enfants comment s'enfuir, dans quelle direction aller. À un moment, les Russes ont encerclé la maison. Ils étaient une trentaine. Un soldat est rentré dans la maison. Il a confisqué tous les téléphones portables et les ordinateurs. On essayait de cacher les enfants, de minimiser les contacts des enfants avec les soldats. On lui a demandé de ne pas leur faire peur. Il a vérifié qu'il n'y avait pas de tract néo-nazi. Et les soldats ont tiré sur les caméras de vidéosurveillance qu'on avait. Ça a effrayé les enfants, bien sûr. C'est difficile parce que la guerre n'est pas terminée.
Nicolas, vous êtes un des fils adoptifs de Sergueï et Natalia. Vous avez 21 ans. Comment avez-vous vécu l'occupation par les Russes ?
Moi, j'ai assez bien tenu le coup pendant l'occupation, mais le deuxième jour, les Russes sont entrés dans le village. Et mon frère et moi, on s'est cachés dans le hangar où il y avait le matériel à côté de la route. On a entendu la colonne de chars qui s'est arrêtée sur la route et qui a commencé à tirer. Là, on a eu très peur. Nous, on était nombreux, il y avait beaucoup de gens à la maison, ça nous aidait bien sûr. On se réfugiait au sous-sol. J'ai entendu dire que c'était la guerre, mais moi, je me suis réfugié dans le travail. Il fallait aider pour transporter de l'eau, faire fonctionner le groupe électrogène. Donc, je me suis occupé sans arrêt. Ça m'a beaucoup aidé.
Natalia, en quoi la foi vous a aidé à tenir et aujourd'hui encore ?
La foi en Dieu, ça aide, c'est la seule chose qui nous aidait. Car il y a des situations où on n'a aucune prise, on ne peut rien changer. Donc c'est la foi et les prières qui nous ont aidés. On ne pouvait que prier pour que le Seigneur nous sauve. Donc deux ou trois fois par jour, on faisait des prières tous ensemble, matin, après-midi et soir. Et sous l'occupation, quand il y avait beaucoup de gens ici à la maison, on priait beaucoup. Même les gens pas croyants venaient pour prier. Ça soulageait beaucoup pour pouvoir surmonter ce qu'on subissait. C'était très important et nécessaire à ce moment-là. La foi nous a vraiment aidés à tenir.
Natalia est inquiète. Parmi les quelques 15 enfants qu'ils ont adoptés ou les 3 qu'ils ont eus avec Sergueï, 2 sont déjà à la guerre, dont un sur le front du côté de Bakhmout. Nicolas, lui, veut être agriculteur. Il est prêt à contribuer à l'effort de guerre financièrement ou par son travail, mais il ne veut pas combattre les armes à la main. En revanche, son grand frère, qui a 22 ans, ne s'oppose pas à la conscription obligatoire. Le prêtre Sergueï, lui aussi, se fait du souci pour ses enfants. Lui-même, en tant qu'aumônier militaire dans les hôpitaux, est confronté tous les jours à la souffrance de ceux qui ont été gravement blessés.
J'ai commencé à être aumônier en 2015. Depuis le début de l'agression russe, j'allais vers les militaires, vers les soldats. Il fallait expliquer aux militaires ce qu'était la foi. Car dans la Bible, il est écrit qu'il ne faut pas tuer. C'est l'un des 10 commandements. Donc qu'est-ce qui est possible de faire ? Faut-il se rendre ? Quand on vous gifle, faut-il tendre autre joue ? Il n'y avait pas beaucoup d'explications raisonnables. Il fallait expliquer ce que Dieu attend des hommes en général. Il fallait parler et expliquer aux soldats ce que cela représente.
Sergueï, vous êtes actuellement aumônier dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui est important dans vos échanges avec ceux qui sont gravement blessés ?
En fait, chaque hôpital a son propre aumônier. C'est comme un médecin, on s'occupe d'un seul hôpital. Quand je suis auprès des soldats qui sont gravement blessés, qui sont en soins intensifs, je fais une prière, je donne l'extrême onction. Mais c'est surtout le travail que je fais avec la famille. C'est avec les membres de la famille que je parle le plus souvent. On ne travaille pas trop comme des psychologues, on ne fait pas de prescription de médicaments. Ce qu'on fait avant tout, c'est parler avec les gens. On essaye de savoir si la personne croit en Dieu ou pas, quel rapport la personne a avec Dieu, quelle est sa connaissance de la foi.
Qu'est-ce qu'on vous demande ? Est-ce qu'il y a des questions particulières qui reviennent ?
La question qui revient le plus souvent, c'est « Pourquoi Dieu n'arrête-t-il pas la guerre ?»
L'engagement des différentes confessions dans l'aide humanitaire a explosé depuis 2022. L'Église gréco-catholique, plutôt présente dans l'ouest du pays, a déployé des antennes grâce à son réseau paroissial. Caritas Ukraine existe depuis 1992. Son directeur, Grégory Selechuk, s'appuie sur un réseau de 44 organisations qui apportent de l'aide aux personnes qui souffrent de l'invasion russe en Ukraine, aux déplacés qui continuent à arriver à Kiev et même dans les zones sous occupation dans l'Est. Et la réponse des Ukrainiens a été massive.
L'impact énorme qu'on a observé, c'est l'explosion du nombre de bénévoles. Avant février 2022, le réseau Caritas comptait sur 600 à 800 bénévoles. Et après février 2022, c'est passé à plus de 16 000 bénévoles. Des gens qui venaient à nous pour aider, pour faire des paquets et distribuer de l'aide, ou même en apportant leur expertise professionnelle. On a vu cette immense solidarité dans toute l'Ukraine pour venir en aide aux habitants.
Est-ce que la violence de cette guerre a ébranlé ou renforcé votre foi, vous qui êtes gréco-catholique, Grégory Selechuk ?
For me, what gave me some kind of bravery stay at home this first month under Russian attack is actually the trust in God.
Ce qui m'a vraiment donné du courage pour rester chez moi pendant ce mois d'occupation et d'attaque, ça a été ma foi en Dieu, car je comprenais que je faisais quelque chose pour les gens qui étaient dans le besoin. Et j'espérais que Dieu nous protégerait, ma famille et moi, et c'est ce qui s'est passé. Donc oui, en ce sens, ma foi s'est renforcée. Mais on a aussi vu beaucoup de souffrance dans toute l'Ukraine. Et puis on a entendu des discussions qu'on n'arrivait pas à comprendre depuis certains pays voisins. Certains disaient que ça n'était pas économiquement intéressant pour eux de s'impliquer dans l'aide à l'Ukraine. Je ne comprenais pas cela. Et puis les gens ont vu beaucoup d'injustices, d'événements terriblement cruels. Et pour eux, c'était une question, est-ce que Dieu existe ? C'est ce qui a fait sens pour moi de travailler à Caritas, avec cette chaîne de solidarité, ces messages de charité qu'on apporte aux gens. On leur dit, mais oui, Dieu existe. Dieu prend soin de vous dans ces situations cruelles et de souffrance, grâce à tous ces gens qui sont solidaires et qui s'occupent de vous.
Because there is people who have this solidarity with you.
Le prêtre Raman dirige Caritas Kiev auprès des déplacés de la guerre depuis 2014. Il fournit de l'aide aux familles, aux enfants, aux personnes âgées qui n'ont plus de toit.
Ici, nous sommes dans un entrepôt où l'on collecte l'aide humanitaire qu'on emballe dans des colis. Ce sont des produits alimentaires préparés pour être distribués. Nous regrettons que l'aide dont nous disposons ne soit pas suffisante. L'aide en provenance de l'étranger a beaucoup diminué cette année, mais aussi l'aide ici en Ukraine de la part des producteurs, car la situation économique n'a fait qu'empirer. Cette aide est donc nécessaire. C'est très important de dire qu'en Ukraine, les problèmes ne sont pas terminés. Ils continuent, la guerre continue, les bombardements continuent. Les gens se retrouvent sans logement, sans moyens de subsistance, et c'est très dommageable qu'ils n'aient pas accès à des repas complet. Je dirais que par rapport à l'année dernière, l'aide a diminué d'environ 80%. C'est énorme.
Rahman, en tant que prêtre gréco-catholique, qu'est-ce que les fidèles dans les paroisses vous confient ? Leurs doutes sur leur foi en cette période de guerre ?
C'est assez terrible, mais nous sommes déjà habitués à la guerre. Et quand nous entendons une alerte de tir de missile ou que nous voyons une roquette voler quelque part, nous sommes reconnaissants envers Dieu du fait qu'elle ne nous soit pas tombée dessus. Et puis nous sommes aussi reconnaissants envers notre armée. Donc oui, certains se posent la question, est-ce que Dieu est vraiment présent ? Mais une des réponses, c'est que Dieu nous aide à vaincre ce mal. C'est notre mission spécifique de surmonter ce mal qui s'insinue. Qui s'infiltre en Ukraine.
C'est notre певна місія побороти це зло, яке іде, 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 чи, знаєте, як ми кажемо, лізе в Україну.
Retrouvons Sergueï, le père d'Alexandre qui a été tué à Mariupol en 2022. Il fait le même constat que le prêtre Rahman, l'espoir de surmonter les souffrances et que la paix revienne.
Nous gardons l'espoir en Dieu, mais de son côté, la Russie dit que nous sommes amis, que nous sommes frères. Mais ils ont des dieux différents. Leurs prêtres bénissent des armes, des roquettes, des sous-marins pour tuer des gens. Nous, on prie Dieu, on demande à Dieu la paix. Nous ne sommes pas dans l'agressivité. Pour moi, Dieu est comme un ami. Oui, nous croyons en Dieu, nous espérons qu'il y aura la paix. J'espère que notre Dieu sera plus fort que celui des Russes.
De son côté, Tetiana Kalinichenko mise sur son engagement et celui des Ukrainiens depuis 2014 pour dessiner un autre avenir pour l'Ukraine.
I think as it was 10 years ago and even now, it's all about values and about choices.
Je pense que ce soit il y a 10 ans, comme aujourd'hui, c'est une question de valeur qui s'impose, la question de nos choix. C'était mon choix d'être sur Maïdan, d'abord comme journaliste, puis comme militante, et de revendiquer certaines valeurs. J'aurais pu tout quitter, quitter mon travail, mais on a décidé de rester pour défendre nos valeurs, pour notre famille, pour affirmer que nous voulons vivre ici, vivre libre. On veut vivre en Ukraine et pas dans un autre pays qui tente de s'imposer à nous ici. C'est un combat pour notre vie quotidienne. Nous avons eu 2 enfants pendant la guerre, c'est un grand défi, mais nous avons décidé d'aller de l'avant, de ne pas mettre notre vie entre parenthèses. On ne sait pas combien de temps cette guerre va durer, mais on essaye de construire tout ce qu'on peut.
But we decided to stay and to build as it's possible to build.
Скільки ще холоду збудеться, станеться, скільки ще виб'ється тих вікон.
Nous terminons cette émission avec cette chanson du groupe ukrainien Okeon LZ. Le chanteur Sviatoslav Vakarchuk interroge « Combien de froid encore ? Combien de fenêtres vont encore trembler ? Combien d'entre nous seront blessés jusqu'au printemps ?» Merci à toutes celles et ceux qui nous ont confié leurs témoignages pour ce reportage en Ukraine et à Eugène Lviovski pour les traductions. Cet épisode, réalisé par Ludivine Amado, est à réécouter sur l'appli Pure Radio et les réseaux sociaux X et Facebook à la page Religion du Monde. À la semaine prochaine, tout de suite, le journal sur RFI. Batterie.